Voilà, Matthieu chapitre 1, versets 1 à 6. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Pérets et Zérach de Tamar, Pérets eut Estrom, Estrom eut Aram, Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Nahon, Nahon eut Salmon, Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut... Très bien, c'est bon, vous m'entendez bien. L'histoire biblique, c'est l'histoire du plan de Dieu pour l'humanité. Dieu sauve l'humanité en l'intégrant dans son peuple. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, j'habiterai au milieu de vous. C'est la volonté de Dieu, c'est pure grâce de sa part et c'est son initiative. Initiative intemporelle et inhérente à l'amour de Dieu pour sa créature et sa création, et avant même qu'elles existent. Il y a dans cette histoire de nombreuses histoires humaines, chacune semblant se soustraire à la volonté divine, mais qui est étroitement liée. Dieu nous a fait libres, mais Dieu maîtrise tout de nous et tout de l'humanité. Cependant, il y a des récits qui nous heurtent, nous, alors que nous vivons au XXIe siècle. Nous avons du mal à comprendre ceux qui ont vécu par le passé. Je veux maintenant évoquer une histoire vécue, celle d'une femme et même de deux femmes, sans lesquelles l'histoire du plan de Dieu ne serait pas ce qu'il a été. Nous avons dans la Bible le témoignage d'auteurs qui ont mis en avant l'existence de femmes qui ont, au regard de notre légalisme ou de nos mœurs, enfreint notre morale. Et pourtant, Dieu les a utilisées et elles ont contribué à son plan extraordinaire. Deux exemples. Tamar. Nous l'avons vu il y a peu avec le récit d'André sur Joseph. Ce récit qui vient comme un cheveu sur la soupe au milieu de l'histoire de Joseph. Nous avons avec Judas, fils de Jacob, et Tamar, une sordide histoire. Mais pourtant, dans le contexte de l'époque, Tamar a été considérée comme juste en faisant ce qu'elle a fait. La loi du Lévirat. Cette loi consistait à remplacer le mari défunt par son frère, et Judas n'a pas tenu sa promesse. Tamar était cananéenne et pourtant elle s'est trouvée dans la droite lignée de Jésus-Christ en donnant naissance à Pérets, fils de Judas. Nous l'avons vu au début. Et ça s'est joué à une main lors de la naissance des deux enfants attendus par Tamar. Pérets a forcé le passage au détriment de son frère Zérach qui sortait le premier. Cette histoire est relatée. Rahab, une prostituée qui décide d'aider les espions du peuple hébreu et qui sera préservée de la mort ainsi que sa famille en récompense. Mais cette femme va se trouver dans la généalogie de Jésus-Christ. C'est par la foi que Rahab, la prostituée cananéenne, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. On voit ça dans Hébreux, chapitre 11, verset 31. De la bienveillance. De la bienveillance, c'est ce que nous allons voir maintenant avec Ruth. Une étrangère moabite. Je ne sais pas si vous avez pu lire ce livre. Si vous l'avez fait, vous aurez remarqué que parler de Ruth, c'est aussi parler de Naomi, sa belle-mère. Naomi, Noémie. Suivant les traductions, je suis resté à Naomi. C'est aussi parler de sa belle-mère, Naomi, sa belle-mère. L'histoire de Naomi et de Ruth se situe dans une des périodes les plus sombres et les plus mouvementées du peuple hébreu. Le 12e siècle avant Jésus-Christ est la période des juges. Il n'y a pas encore de roi, les Israélites étaient en guerre permanente avec leurs voisins et n'avaient pas pu s'approprier pleinement la terre promise. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Causant des tensions énormes, autant intestinales qu'extérieurement. Parler de chaos serait le plus approprié. Alors, nous ne lirons pas les 4 chapitres de ce livre qui fait partie des écrits, des livres de sagesse, au même titre que les psaumes, Job, Proverbes, Cantiques, Ecclésiaste, Lamentation, Esther, Daniel, Esdras, Néhémie, 1 et 2 Chroniques. Ruth est une femme remarquable, aimante, entrepreneuse, soucieuse de ses proches, une femme de valeur, nous dit le texte. Nous avons dit bienveillance, mais ça commence mal. Ce livre est composé de 6 parties qui forment ce qu'on appelle un chiasme. Alors, chiasme signifie croisement. Ainsi, chacune de ces parties répond à une autre en s'opposant. Voici la structure résumée du livre de Ruth. Mort et stérilité, engagement d'une femme à suivre sa belle-mère, rencontre publique entre Boaz et Ruth. Alors, moi, je prononce Boaz, hein. D'autres traductions disent Boaz. Bon, c'est Boaz. Rencontre privée entre Boaz et Ruth, engagement d'un homme à prendre une épouse, vie et longue descendance. Les mots utilisés dans cette structure sont bruts, voire trop brutales à mon goût, car elles cloisonnent des situations dans des mots qui frôlent le manque d'humain, avec un détachement qui, lui, n'est pas réaliste. Je préfère voir les choses autrement. Un résumé du prélude. C'est l'époque des juges, l'avons-nous dit, période très mouvementée, voire chaotique, où il est dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. On imagine bien ce que cela veut dire. Une famille composée d'un couple et ses deux fils quitte Bethléem pour aller en Moab à cause d'une famine. Le mari meurt et les deux fils aussi, après s'être mariés avec des femmes moabites, sans laisser de succession. Il reste la mère, Naomi, et ses deux belles-filles. Ces trois femmes sont très attachées l'une à l'autre. Je voudrais faire une pause dans ce résumé. Je me suis demandé à ce moment-là ce que pouvait ressentir Naomi. On a parlé de détresse tout à l'heure. C'était une véritable détresse qu'elle vivait. Quel a été son comportement à ce moment-là, dans cette situation dramatique? Elle a perdu son mari, ses deux fils, elle se retrouve dans un pays en exil. En plus, un pays Moab, c'est pas un pays avec lequel il y avait de bonnes relations avec Israël. J'imagine bien Naomi prier. Qu'a-t-elle bien pu prier? Alors, moi je pense qu'elle a prié « Dieu, aide-moi ». Alors, bon, « Dieu, aide-moi », c'est l'élan du cœur, c'est le cri du désespoir qui fait de Dieu la seule solution à notre situation, à la détresse que l'on peut vivre. Naomi est passée par cette situation, une situation de détresse, loin de son peuple. Dieu, aide-moi. Cela nous a aussi été rappelé mardi dernier, Bernard, nous a parlé de cette femme de Corée du Nord qui... Bon, on s'imagine la situation en Corée du Nord. Ce n'est pas un pays où il est bon d'être chrétien. Cette femme chrétienne priait. Que priait-elle ? Dieu, aide-moi. Elle était dans une détresse profonde, sa famille éloignée ou sa famille perdue, ne sachant où elle était. Dieu, aide-moi. Et je crois que c'est ce qu'a prié Naomi. Alors Naomi décide de retourner à Bethléem. Et seule Ruth la suit. Le retour deviendra une bénédiction à laquelle nul ne pouvait s'attendre. L'accueil de Naomi et Ruth sera plein de bienveillance. Il faut se rappeler le contexte désastreux d'Israël à cette époque. Je le répète, Moab comme un ennemi et Ruth, la Moabite, l'étrangère sera bien accueillie. Ce qui va suivre s'appuie sur la personnalité de Ruth. J'ai essayé de me mettre à la place de cette femme. Pas évident pour un homme, mais j'ai essayé. Trois points seront développés. La bienveillance de Dieu au travers de Naomi, la bienveillance d'un homme envers sa lignée, la bienveillance de l'Éternel envers son peuple. La bienveillance de Dieu au travers de Naomi. Naomi retrouve sa patrie, mais Ruth, c'est l'exil dans un pays qu'elle ne connaît pas, loin de sa famille. C'est son choix. Comment cette femme en est-elle arrivée là? Comme lui avait conseillé Naomi, elle aurait pu rejoindre sa famille et continuer d'adorer son Dieu. Elle décida de suivre sa belle-mère. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années de cohabitation, presque une décennie, pour qu'un lien si étroit et pu se faire entre ces trois femmes, et surtout entre Naomi et Ruth. Le texte ne le dit pas. Mais on peut y mettre un mot. Le témoignage. Naomi a à coup sûr témoigné de ce que l'Éternel a fait pour son peuple. La sortie d'Égypte avec Moïse, l'invasion du pays promis avec Josué. Elle devait aussi connaître les écrits de Moïse et les transmettre à ses belles-filles. Lui, Moïse, qui disait « Dieu est comme un rocher, ses œuvres sont parfaites, tout ce qu'il fait est juste » Deutéronome chapitre 32, verset 4. Ou encore « Le Dieu d'éternité est un refuge, il est depuis toujours un soutien ici-bas » Deutéronome chapitre 33, verset 27. Ruth n'est pas restée insensible à ce témoignage, ces paroles du guide d'Israël. De plus, Naomi a dû reconnaître l'erreur commise par son mari de quitter Bethléem, sa souffrance d'être éloignée de son peuple, d'avoir perdu tous ses proches en exil. L'honnêteté de Naomi a été pour Ruth un gage de bienveillance, les poussant à s'aimer mutuellement et à se soutenir dans une confiance totale. Se soutenir. Ruth a mis sa confiance dans ce bienveillant pour se laisser conduire par lui selon son plan pour elle. Elle devait connaître ces paroles de Moïse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Psaume 90, verset 12. Ou encore, rends-moi en jours de joie les jours de mes épreuves et en années de joie mes années de malheur. C'est le cas de Naomi. Psaume 90, verset 15. Ces paroles de Moïse qui sont des prières ont sûrement été comme des fondations et un ciment, une marque indélébile qui a gravé le cœur de Ruth comme celui de Naomi. Elle a décidé de suivre sa belle-mère comme poussée par une force, car elle l'aimait. C'est bien l'amour qui a soudé ces deux femmes. Un amour pur, sans arrière-pensée, plein d'une bienveillance réciproque et tournée vers l'Éternel. Ne me pousse pas à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ça vous rappelle quelque chose? C'est marqué. L'alliance tripartite. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Au chapitre 1, versets 16 et 17. Ruth est décidée. Et c'est bien là une déclaration d'amour, mais avec cette déclaration, il y a une confiance totale en l'Éternel. Remarquable pour une femme étrangère à cette époque. La bienveillance d'un homme envers sa lignée. La rencontre avec Boaz. On a parlé d'une femme de valeur. Eh bien voilà un homme de valeur. La bienveillance de Boaz à l'égard de Ruth est à la hauteur de la valeur de ce personnage. Boaz est âgé, en tout cas plus âgé que les jeunes auxquels aurait pu s'intéresser Ruth. Boaz est un homme d'honneur, un homme déterminé, un homme juste, un homme de confiance, un homme qu'on pourrait nommer de Resed. C'est-à-dire bienveillant, bon, loyal et pieux. Boaz, un gentleman. Il se trouve être un parent de Naomi, et à cause du décès du fils de cette dernière, soit du mari de sa belle-fille, Boaz se trouve être, je ne sais pas si vous avez suivi, mais peu importe, Boaz se trouve être en mesure de racheter ses terrains et d'épouser Ruth pour donner une descendance à son mari défunt, mais aussi à Naomi. C'est la loi du Lévirat. On en a déjà parlé, on y revient. Pour un moment, je me mets à la place de Ruth. Elle dit, j'avais décidé de suivre ma belle-mère comme poussée par une force qui me liait à elle, car je l'aimais. Notre venue en pays de Juda fut pour moi comme un exil. Je quittais mon pays pour une terre inconnue. Et j'y fus accueilli comme jamais je ne l'aurais imaginé. La rencontre avec Boaz fut une révélation de la bienveillance de ce Dieu. Et aussi de cet homme qui n'a eu de cesse de nous faire du bien. Alors que le chaos régnait un peu partout dans le pays. Alors, de devoir le quitter me faisait peur. C'était comme si le repos m'échappait. Vous suivez toujours? Non? Comment? De quoi parle-t-on à ce moment-là? Pourquoi Ruth aurait subitement peur de quitter Boaz? Nous allons le voir. Eh bien, c'est à cause du Goël. Le Goël est le rédempteur prioritaire. Il y avait dans la loi du Lévirat le devoir pour le Goël, le rédempteur, de prendre pour femme la femme de son frère pour assurer sa descendance. Dans notre cas, il n'y avait plus de frères, mais des proches. Et en Boaz, nous avons un homme proche parent qui a le devoir de prendre soin de la lignée. C'est un proche parent du défunt qui possède le droit de rachat de ses terres et le devoir d'épouser la veuve laissée sans descendance. Il a aussi la possibilité de racheter un membre de sa famille tombé en esclavage. On voit dans Lévitique chapitre 25. On voit cela. Le thème du rachat est central dans le livre de Ruth. Naomi avait discerné la main de Dieu et vu renaître son espérance. Sans forcer Ruth, Naomi va la conseiller et lui permettre ainsi de changer de vie. Au chapitre 3 du verset 9, il est dit « Je suis Ruth, ta servante, dit-elle à Boaz. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Ce sont des paroles qui peuvent nous paraître énigmatiques à nous aujourd'hui. Étonnantes ces déclarations, mais s'agissant de l'époque, c'est tout simplement une déclaration de mariage. On aurait droit d'être choqué par ce comportement, mais Boaz ne l'a pas été. Mais ce que demande Ruth n'est pas aussi simple que cela, car il y a un problème de taille. Pour comprendre un peu mieux, lisons Ruth au chapitre 3. Du verset 5 à 13. Ruth lui répondit, elle répondit à Naomi, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'aire de battage et fit tout ce qu'elle avait ordonné, ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson, il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Il dit « Qui es-tu ? » Elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Il dit « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. » Car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat. Mais il existe un autre parent, plus proche que moi, qui a ce droit. Passe la nuit ici. Demain, s'il veut exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai, moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Comment s'endormir après une telle nouvelle ? Elle réalise du coup qu'elle va peut-être se séparer de Boaz, et cela ne l'enchante pas du tout. Rien ne semble dans le texte transparaître des sentiments de Ruth et de sa crainte. Il semble que sa confiance soit totale dans l'issue de la situation et de ce que va permettre l'Éternel. J'imagine Ruth prier. Mes craintes, je les ai remises au Seigneur et il m'a secouru. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Psaume 91, versets 1 et 2. Alors que tout semblait se ternir dans mon existence, à cause de l'incertitude de mon futur, je me suis attaché à mon Sauveur, car il sait tout de moi et de mon avenir. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Proverbes chapitre 16, verset 3. Ruth ne devait évidemment pas connaître ces proverbes de Salomon, qui viendra plus tard. Mais il n'est pas nécessaire d'être Salomon ou un personnage éminent pour dire cela. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Je vois bien Naomi dire de telles choses, et Ruth aussi. Et comme chacune et chacun de nous aussi. La bienveillance de l'Éternel envers son peuple. Un mot hébreu revient souvent dans la Bible et dans les textes de sagesse. Nous l'avons déjà prononcé. Chesed. Alors, il est difficile de prononcer, de donner une traduction exacte en français de ce mot, recède, mais ça signifie bienveillance, miséricorde, bonté, amour loyal, croire en la bonté de Dieu, piété, relation qui unit deux êtres. C'est tout ça à la fois. Bon, bienveillance peut bien résumer tout ça. Bienveillance, grâce de Dieu. Boaz fait ce qu'il doit faire. Il s'empresse d'aller en ville pour régler cette affaire sur le champ. Il parle aux parents proches qui peut racheter les terres du défunt. Et ce dernier accepte. Ah, on peut dire que ça tourne mal. Il est intéressé par les terrains. Boaz lui signifie alors qu'il doit aussi prendre Ruth pour femme, la Moabite, la veuve du défunt, pour lui donner une descendance qui héritera de son patrimoine. Le proche parent ne peut accepter de sacrifier son propre patrimoine. Il refuse l'offre. C'est un revirement de situation. Dans cet échange, je pense on peut, entre les deux proches parents, imaginer une tension palpable. Ça n'a pas dû se faire en 5 minutes. Enfin, j'imagine, en plus, il y avait des gens autour d'eux. Cela n'est pas retransmis dans le texte, mais ça a sûrement été le cas. C'est ainsi que Boaz prit Ruth pour femme. Au chapitre 4, versets 11 à 17. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent : Nous sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Pérets, que Tamar a donnée à Juda. Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme, et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte, et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi. » Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Ruth est congratulée par les témoins de la scène, bien qu'elle ne soit pas là. Et ces témoins ne s'imaginent même pas quelle descendance naîtra de ce couple ? Un homme âgé et une femme étrangère. Les voix de l'Éternel ne sont manifestement pas nos voix. Ruth a été congratulée, mais on dirait que c'est Naomi qui est la mère de l'enfant. Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours. Puisque c'est ta belle-fille qui t'aime, qui t'a donné ce petit-fils, elle vaut mieux pour toi que cet fils. Naomi prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Naomi a un fils. Son nom, Obed. Serviteur. Obed, le serviteur de l'Éternel. Je perçois dans cette fin comme une apothéose marquée par ce lien indéfectible entre une mère et sa belle-mère. Ruth aimait sa belle-mère. Et en y regardant de près, on voit que Ruth s'est donnée pour elle. Elle est restée à ses côtés. Elle lui a donné un fils et c'est tout un symbole. Elle lui a donné un fils et une descendance et pas des moindres, car c'est la lignée qui mène à Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le bienveillant par excellence, Dieu parmi les hommes. Rappelons ce que Ruth dit à sa belle-mère avant de partir de Moab. « Ne me pousse pas à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Cela nous a fait penser à l'alliance tripartite. « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Lévitique, au chapitre 26, verset 12. C'est Dieu qui dit cela. « Je marcherai au milieu de vous » n'a pas pu être prononcé par Ruth. Bien évidemment, car seul Dieu peut le faire. Ruth était loin d'imaginer que sa propre descendance, alors que son mari décédé ne pouvait lui donner de fils, serait l'ancêtre de l'Emmanuel, Dieu avec nous. L'enfant qui naît de cette alliance humaine, de ce mariage, c'est un peu comme si c'était Dieu qui marchait au milieu de cette famille. Obed, le serviteur et l'ancêtre de Joseph, père adoptif de Jésus et de Marie, la femme qu'il a portée. Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. L'amour, la bienveillance mènent à des destinées improbables. L'histoire de Ruth, c'est l'histoire d'un tel amour et d'une telle bienveillance. Le destin d'une étrangère qui s'intègre dans le dessein de Dieu pour l'humanité. Sans descendance possible, l'Éternel lui a donné une descendance nombreuse pour toujours, Obed, le maillon rattaché à Abraham. Et au chapitre 4, verset 18, « Voici la lignée de Pérets. Pérets eut pour fils Hetzron, Hetzron eut Ram, Ram eut Aminadab, Aminadab eut pour fils Nahon, Nahon eut Salmon, Salmon eut pour fils Boaz, Boaz eut Obed, Obed eut pour fils Isaïe, et Isaïe eut David. » On boucle ainsi la boucle que nous avions commencé avec la généalogie de Matthieu. Alors, déterminer le but de ce livre n'est pas évident. Mais ce qui ressort dans le contexte et les circonstances, c'est la bienveillance malgré la situation de détresse vécue par les deux femmes. Nous pouvons dire que ce livre encourage ceux qui se trouvent en situation de détresse à placer leur confiance en l'Éternel, lui qui s'occupe des plus humbles et dirige la vie de ses fidèles, même si son action n'est pas immédiatement perceptible. Il enseigne qu'il est possible de vivre dans la fidélité à l'Éternel au sein d'une époque de ténèbres spirituelles. Et Dieu bénit ceux qui agissent ainsi. Si le livre des juges, période de notre livre de Ruth, a pour slogan « Chacun faisait ce qui lui semblait bon », on pourrait résumer ce livre par « Chacun faisait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel ». Ruth ouvre la porte à un avenir glorieux, celui de la dynastie de David. La sagesse et la crainte de l'Éternel. Prions. Éternel, tes voix ne sont pas nos voix. Tu fais ce que tu veux. Tu es ce Dieu plein de compassion pour tes créatures. Tu nous aimes d'un amour inqualifiable que l'on ne peut exprimer. Tu es ce bienveillant, ce Dieu qui tient ses promesses, ce Dieu qui est si proche de nous, alors que nous le croyons si loin. Tu es ce Dieu-là, proche de nous. Tu es le Dieu de Naomi, tu as été le Dieu de Ruth. Tu es le Dieu de tant de gens sur cette terre qui pourtant passent par des difficultés, des moments de détresse, de situations que nous ne pouvons même pas imaginer. Tu es ce Dieu-là. Parce que notre espérance est si profonde en toi. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Tu es le Dieu de notre salut. Tu nous as sauvés. Notre conviction est si profonde en cela, Seigneur. Merci pour ce qu'a vécu Naomi et Ruth, qui nous témoignent de quel Dieu tu es, de ce Dieu qui est compatissant, bienveillant, aimant, pour chacune et chacun de nous. Et nous voulons nous en remettre à toi, Seigneur, pour notre avenir ici-bas, avenir toujours incertain, mais notre certitude est en toi. Avenir pour notre Église, notre certitude est en toi, Seigneur, parce que tu es ce Dieu bienveillant et plein d'amour. Amen.